Bonjour à chacun. C'est une joie de vous revoir. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter plus de ça après. Le texte dont tu as parlé... Le texte dont a parlé Étienne tout à l'heure, avec ses questions-réponses entre Jésus et ses disciples, on voit que les disciples ne comprennent pas grand-chose, ils sont en train de poser des questions qui nous paraissent tellement évidentes à nous maintenant, après 2000 ans d'histoire chrétienne. Se déroule au cours de ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant la crucifixion. C'était un repas de fête, c'était le repas de la Pâque, c'était la grande fête pour les Juifs à l'époque. Mais ce repas avait commencé d'une manière un peu bizarre. Des fois, on avait l'impression que Jésus avait l'art de gâcher les fêtes. Ça a commencé par ce fameux épisode où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et on a l'habitude de ce texte, on l'a lu, relu, on a sûrement vu des représentations de ça, des peintures, pour ceux qui aiment la peinture. Si vous avez vu des films sur la vie de Jésus, c'est représenté, et ça nous paraît normal. Jésus, c'est son travail de laver les pieds de ses disciples. Presque. On a presque envie de dire ça. Mais pour ceux qui ont vécu cet événement, ils n'ont pas dû le vivre de manière aussi neutre que nous pouvons le vivre nous. Et j'aimerais parcourir ce texte avec vous pour essayer de nous replacer dans l'ambiance et d'essayer de vivre ce qu'ils ont vécu et essayer de comprendre les leçons que Jésus a voulu transmettre en faisant ce geste. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Et Jean commence ce chapitre 13 en mettant un peu le contexte en place. Je vais lire les trois premiers versets pour commencer. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, et ensuite la phrase continue pour nous raconter ce que Jésus a fait. Jean prend bien le temps de nous rappeler quel moment ils sont en train de vivre ce repas juste avant la fête de la Pâque. Mais c'est un moment particulier parce que Jésus sait à quel moment de l'histoire il est en train de vivre. Il est en train de vivre le moment où il va quitter ce monde pour retourner au Père. Et il sait que c'est la croix qui va être ce chemin. Jean nous rappelle que Jésus avait toujours aimé les siens et qu'il était sur le point de leur donner la preuve suprême de cet amour. Il est sur le point d'aller jusqu'au bout de cet amour sans ne rien retenir. Alors, est-ce que Jean parle du lavement des pieds qui va se produire juste après, ou est-ce qu'il parle de la croix? L'ambiguïté est là, mais en fait, probablement, Jean voit tout l'ensemble comme un seul geste. Comme Jésus lave les pieds de ses disciples, il est allé à la croix, et c'est la même chose. Et puis Jean nous dit, donne déjà cette information au milieu de cette troupe qui fête la Pâque, il y a Judas. Et Judas a déjà prévu de livrer Jésus. Il s'est déjà arrangé, il a déjà reçu son salaire. Ou alors il a déjà convenu de son salaire, on n'est pas tout à fait sûr. Il cherche déjà le moment propice, favorable pour livrer Jésus. Mais malgré tout ça, Jésus sait qu'il est au contrôle de tout. Il sait que le Père a tout remis dans ses mains. Alors, que fait-il Jésus? À partir du verset 4, on lit que Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. J'aime bien la manière dont Jean raconte les événements. Il aurait pu juste dire, pendant le repas, Jésus lava les pieds de ses disciples. Mais quand il le raconte, on a l'impression de voir, moi je suis assez visuel, on a l'impression de voir une scène de cinéma presque au ralenti, scène par scène. Jésus se lève. Jésus enlève son vêtement. Jésus prend un linge dont il s'entoure. Jésus verse de l'eau dans un bassin. À chaque fois, il y a cet arrêt, comme si Jean, en l'écrivant, revivait cette scène. Et il revoyait chaque détail, comme si elle s'était gravée dans son cœur, tellement c'était un événement important, profond, puissant. Alors, il faut bien dire que peut-être que sur le moment, il ne s'est pas dit que c'était un événement important, profond, puissant. Il s'est peut-être juste dit, c'est un événement étrange, un événement bizarre. Comment ça se fait que cet homme que je suis depuis quelques années, se dit Jean, comment ça se fait qu'il fait cet acte? On est au cours d'une fête, et j'imagine qu'il s'était un petit peu apprêté pour être présentable pour cette fête. Et voilà que le maître se dévêt. Il quitte sa tenue royale, parce qu'ils avaient quand même des attentes royales par rapport à Jésus. Ils voyaient en lui le roi qui devait venir. Et un roi ne se met pas en petite tenue à table. Jésus commence par les surprendre et il prend une tenue misérable. Et alors, il se met à laver leurs pieds. Qu'est-ce que nous, ça nous dit pas grand-chose, hein, on a l'habitude de se débrouiller nous-mêmes pour nos propres pieds. Mais à l'époque, c'était presque une marque de politesse de base, quand on arrivait dans une maison, de fournir quelqu'un qui lavait les pieds des hôtes. Ou alors au moins de leur fournir l'eau pour qu'ils puissent eux-mêmes se laver les pieds. Et en tout cas, si quelqu'un le faisait, c'était un esclave, c'était pas quelqu'un d'honorable, ce n'était pas le maître de maison. C'était une tâche répugnante, hein, on est tous de cet avis, et répugnante au point qu'on ne demandait pas à n'importe qui de la faire. D'ailleurs, parmi les Juifs, peut-être ça peut être un peu choquant d'entendre ça, mais un esclave juif ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire que les Juifs ne demandaient même pas quelqu'un de leur propre peuple de faire cette tâche, tellement elle était répugnante. Ils laissaient ça aux esclaves étrangers. Bon, c'est un peu discutable comme éthique pour nous, mais ça montre à quel point c'était quelque chose de vraiment qu'on n'attendait pas d'une personne importante. Alors, Jean, en nous mettant avec cette mise en scène au départ, en nous rappelant où on en est dans l'histoire, qui est là, etc., qui est Jésus, ce qu'il sait, et puis ce que fait Jésus à ce moment-là, il est en train de nous mettre nous-mêmes, lecteurs, dans une situation inconfortable, parce que tout est contradictoire, tout est illogique là-dedans. Jésus est au contrôle de tout. Il sait qu'il a tout reçu du Père. Le Père a tout remis entre ses mains. Pourtant, on sait que Jésus va bientôt être livré, qu'il va bientôt être livré aux mains des hommes et qu'il sera comme sans défense face à eux. On voit Jésus qui donne une preuve suprême de son amour à des gens parmi lesquels il y a quelqu'un qui le hait au plus haut point, au point de le livrer. On est mal à l'aise en disant ça. Et puis Jésus, il sait qu'il va bientôt aller auprès du Père, il sait qu'il va passer par la croix. Et à ce moment-là, au lieu de se soucier d'essayer de passer un bon moment pour au moins finir cette étape de sa vie sur un bon souvenir, et au lieu de chercher du réconfort auprès des autres, il se soucie de leur bien-être, du bien-être de ses convives. C'est pas agréable de manger avec des pieds sales, on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais et il a pris soin d'eux physiquement, un petit soin qui leur a fait du bien. Lui qui allait être lacéré de coups bientôt et avoir les membres percés. Tout est retourné, tout est illogique. Jésus ne fait pas ce qu'on attend de lui. Et bien sûr, la réaction des disciples ne se fait pas attendre. Lisons le dialogue qu'a eu ensuite Jésus avec Pierre. Donc Jésus est en train de laver les pieds de ses disciples et on lit au verset 6. Il vint donc à Simon Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Alors, un nettoyage dans la Bible, on a, même si c'est le nettoyage des pieds, on a tout de suite la pensée d'une image de purification. D'ailleurs, si vous avez un peu l'habitude de lire dans la Bible, assez souvent, le nettoyage de la souillure du péché est représenté par un bain, d'une quelconque manière. Quelqu'un qui était impur dans l'Ancien Testament, avant d'être pur, souvent devait prendre un bain. Pierre ne veut pas se laisser laver les pieds par Jésus. Et il semble que Jésus y tienne vraiment, parce qu'il dit à Pierre, « Mais si tu n'acceptes pas, c'est fini entre nous. Tu as beau être un de mes meilleurs amis, si tu n'acceptes pas ce geste, nous ne pouvons plus être amis, nous sommes séparés. La relation entre nous sera rompue. » Alors, bien sûr, je ne pense pas que quand on arrivera au ciel, il y aura un contrôle de l'état de nos pieds pour savoir si on peut entrer ou pas. Nous qui connaissons l'Évangile, nous savons que nous avons besoin d'être purifiés de notre péché pour entrer en relation avec Dieu. Et Jésus voulait leur enseigner ça, probablement, à ce moment-là, leur dire, oui, on a passé 3 ans ensemble et nous sommes amis, mais j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui m'apprécient, mais qui n'ont pas été purifiés, malheureusement. La purification est quelque chose d'incontournable, de nécessaire pour être en relation avec Jésus. Et cette image de la purification, je vais juste vous lire un passage dans la lettre à Tite. Tite au chapitre 3, verset 5, c'est Paul qui parle à son ami Tite, il parle de Dieu, et il dit « Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. » Ça, c'est l'Évangile, hein. Et comment il décrit ça? Il donne deux images. Il dit par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Cette idée de bain qui régénère, c'est-à-dire qui fait quelqu'un de nouveau, est présente là. Oui, l'œuvre de Jésus, c'est une œuvre qui nettoie à l'intérieur, qui purifie et qui rend capable, acceptable aux yeux de Dieu. Et elle est nécessaire. Même pour Pierre, qui est un suiveur de Jésus enthousiaste et volontaire, il a besoin d'être purifié par Jésus. Tous ont besoin d'être purifiés par Jésus. Mais évidemment, Jésus ne parle pas vraiment de la purification des pieds. D'ailleurs, il fait très bien comprendre à Pierre que c'est un symbole, puisqu'il lui dit « Ce que je fais maintenant, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Tu le comprendras dans la suite. » Dans la suite, pourquoi? Parce que la croix aura lieu le lendemain, et cette croix et cette résurrection va ouvrir les yeux des disciples, et ils vont comprendre enfin l'œuvre de Jésus. Et ils vont comprendre que ce lavement des pieds est une préfiguration, une annonce de cette grande purification que Jésus allait opérer à la croix. Donc le lavement des pieds qui a lieu à ce moment-là n'est pas celui qui sauve les disciples, et c'est celui qui leur enseigne qu'ils ont besoin d'être purifiés. Il n'est pas suffisant en lui-même. D'ailleurs, au verset 10, Jésus dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Et il donne cette précision. Pourtant, il leur a tous lavé les pieds. Ce qui montre bien que ce n'est pas cet acte que Jésus a fait qui a une efficacité en lui-même. Bien sûr, Jésus pense à Judas qui est là et qui n'est pas dans les dispositions pour recevoir le salut. Qu'est-ce qui nous nettoie? La première lettre de Pierre nous le dit au chapitre 1, les versets 18 et 19. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, et j'ai envie de rajouter à bien plus forte raison par de l'eau, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ouais, c'est bien ce que Jésus allait opérer le lendemain à la croix qui, qui devait sauver Pierre. Alors, en lisant ce passage, forcément, on doit se poser la question. Est-ce que j'ai été purifié par Jésus? Est-ce que je suis pur devant Dieu? Et pourquoi est-ce que je crois que je suis pur? La réponse de la Bible est sans équivoque. Si je suis pur, c'est seulement parce que j'invoque le sang du Christ. Je ne peux pas me prévaloir d'autre chose pour être déclaré pur. J'aimerais revenir un petit peu en arrière, reprendre le verset 10. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un glissement dans l'image que Jésus est en train d'utiliser. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Quelques secondes avant, Jésus était en train de dire à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Puis tout d'un coup, on a l'impression que dans ces deux versets, que le lavement des pieds est quelque chose d'un peu secondaire, comme s'il y avait un glissement qui était en train de s'opérer. Il est en train de faire une comparaison entre un bain complet et le nettoyage des pieds. Alors pour nous, ça nous paraît un peu obscur parce que ça ne correspond pas du tout à notre manière de vivre. Et j'ai regardé un peu comment ça se passait pour l'hygiène dans les temps passés. Alors déjà, j'ai été bien remis en place parce que moi, je m'imaginais que jusqu'à peu près, peut-être au 19e siècle, tous nos ancêtres étaient des gens très sales. Et j'ai découvert que pas du tout. Moi, j'avais par exemple une image du Moyen-Âge avec des gens couverts de crasse et qui sentaient mauvais. Et en fait, non, au Moyen-Âge, les gens étaient très propres. Et c'était déjà, dans l'Antiquité, c'était le cas. C'est seulement à la Renaissance qu'il a commencé à avoir des petites négligences à ce niveau-là. Donc après le Moyen-Âge. Mais dans l'Antiquité, bah d'ailleurs, si vous visitez parfois des ruines romaines, ils ont mis tellement d'énergie et d'argent, je pense, pour construire des thermes et des bains, etc. Il en reste même des ruines maintenant. Hein. C'était quelque chose de très important pour eux. Et pour les Juifs, en fait, c'était le cas aussi. Hein. Alors, à cette époque, on prenait un bain complet régulièrement, comme nous, quoi, hein. Peut-être la différence qu'il y avait, c'est que, en tout cas dans cette région d'Israël, bah, vous connaissez le climat, ils se déplaçaient en sandales la plupart du temps, ou pieds nus, mais pas avec des chaussures fermées comme nous pouvons avoir. Et puis, les routes n'étaient pas macadamées, hein, c'était la terre brute avec de la poussière. Les déplacements se faisaient à pied ou alors à dos d'animal, donc vous imaginez un peu les déchets qu'il pouvait y avoir sur la route. Donc, oui, on se salissait les pieds en se déplaçant. Et donc, c'est pour ça qu'il était commun, en arrivant quelque part, de commencer par se laver les pieds, parce qu'il y avait la poussière, la sueur et d'autres saletés qui avaient pu s'y attacher, beaucoup plus que pour nous. Mais, bien sûr, quand ils arrivaient quelque part, ils ne commençaient pas par prendre un bain complet. Ça, ils l'avaient fait chez eux, et c'était tout à fait suffisant. Alors, ce glissement qui est en train de s'opérer dans notre texte avec Jésus, c'est que en fait, c'est le bain complet qui est important, et pas plus le lavement des pieds. Jésus, il change un peu d'image à ce moment-là. Le bain complet que Jésus donne, c'est la purification complète qu'il donne à la croix. Et il dit, à partir du moment où tu as été purifié comme ça, complètement, intérieurement, c'est bon. De temps en temps, il y aura besoin d'un nettoyage des pieds. Vous comprenez le changement d'image qui est en train de s'opérer? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses disciples? Il est en train de leur dire, ben voilà, je vais opérer quelque chose dans la suite, tu le comprendras. Et il allait le comprendre très vite, Pierre, à la croix, qui fait que vous êtes entièrement pur et ça, c'est réglé. Il n'y a plus besoin de se poser des questions, est-ce que je serai un jour acceptable aux yeux de Dieu? Non, l'œuvre de Jésus est parfaite, accomplie, définitive et suffisante. Mais Jésus savait que malgré cette œuvre de purification, ses disciples allaient de temps en temps, peut-être souvent, régulièrement, chuter à nouveau, pécher. Et même s'ils avaient eu ce bain de la purification qui les rendait définitivement acceptables aux yeux de Dieu, il y aurait quelques petites choses à régler en chemin. Il y a, dans sa lettre, Jean écrit un verset qui est très utile pour les chrétiens qui ont parfois la conscience tourmentée. C'est dans la première lettre de Jean, chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Je crois que c'est de ça qu'il parle Jésus à ce moment-là. Je vais vous nettoyer, vous rendre acceptable aux yeux de Dieu. Mais ne continuez pas votre vie comme si, bon, c'était maintenant je peux pécher, c'est pas grave, de toute façon je suis purifié. Non, continue à prendre le péché au sérieux. Et reviens régulièrement auprès de moi pour reconnaître ce péché et en être nettoyé. Et à cause de ce nouvel enseignement de Jésus, j'ai envie de poser d'autres questions en lisant ce texte. Est-ce qu'on s'est arrêté à une expérience de conversion un jour dans le passé? Et en se disant, maintenant, je peux rouler en roue libre. Ce n'est pas ce que Jésus attend de nous. Jésus attend qu'on continue à vivre une vie de repentance. Alors pas une vie triste où je suis triste de mon péché, non. Mais une vie où mon cœur s'élance vers Dieu régulièrement en lui disant, j'ai encore été indigne de ton amour et je le reconnais devant toi. Et c'est toujours parce que je suis purifié par ta grâce que je peux revenir vers toi. Pardonne-moi encore cette fois, Seigneur. Ça, c'est une discipline ou une habitude ou un élan du cœur à entretenir et à voir régulièrement. Et si on ne l'a pas, c'est peut-être qu'on n'a pas compris la gravité du péché, en fait. Et donc, pas compris la grandeur de la purification que Dieu nous promet. Alors, à ce point-là de l'histoire, ce soir, je pense que les disciples étaient assez mal à l'aise. Celui qu'ils estimaient être leur roi venait de faire devant eux une tâche que même un esclave juif ne devait pas faire. Et quand les convenances comme ça sont brisées, on ne se sent pas bien. Et surtout un repas de fête comme ça, où on s'attend à avoir plutôt quelque chose qui roule avec des rites habituels, et on sait ce qu'on mange, on sait quel psaume on chante à quel moment, et peut-être même qu'il y avait des prières récitées, je ne suis pas tout à fait sûr, mais ça devait être quelque chose qui roulait, et puis là, Jésus avait mis un grain de sable dans les rouages, et tout était bizarre. Et là, on a le verset 12, après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, on se dit, enfin, la soirée va reprendre son cours normal. On va essayer de plus penser à cet incident, c'est trop gênant. Il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Ah mince, il va encore en parler en plus maintenant. Ah, il ne devait pas être content d'entendre ça, les disciples. Vous m'appelez le maître et le seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Jésus insiste maintenant sur ce que eux doivent faire suite à ce que lui vient de faire. Et le raisonnement qu'a Jésus à ce moment-là, c'est de leur dire, alors vous vous rappelez, je suis au-dessus de vous, loin au-dessus de vous, vous m'appelez maître, seigneur, vous avez raison. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui, oui, seigneur, on est tous d'accord. Bon, alors si moi qui suis tellement plus grand que vous, je me suis tellement abaissé devant vous, vous qui êtes tellement plus petit que moi, c'est normal que vous deviez faire la même chose. C'est un raisonnement logique, en fait. Si le plus grand fait la chose la plus petite, alors le plus petit, il peut bien le faire aussi. Donc Jésus s'est fait serviteur, humble, pire qu'esclave à ce moment-là, pour leur enseigner à faire de même. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus voulait enseigner à ses disciples qu'ils devaient littéralement se laver les pieds les uns aux autres? Alors, on a déjà vu depuis le début de ce texte que Jésus avait chargé ce lavement des pieds de tellement de symbolisme que j'ai du mal à croire qu'on doive s'arrêter juste à une lecture purement littérale de ce geste. D'ailleurs, si j'ai déjà vécu à une occasion, où dans un groupe, nous nous sommes lavés les pieds les uns aux autres, et vous savez, la dernière chose qu'on a fait juste avant de se réunir pour se laver les pieds les uns aux autres, on s'est lavé les pieds nous-mêmes. Parce qu'on aurait eu trop honte de présenter nos pieds moyennement propres à quelqu'un qui nous entoure. Et j'imagine que c'est ce qu'on ferait tous si on en avait la possibilité, parce qu'on a une certaine pudeur. Et en vrai, c'est facile de laver des pieds propres. Parce que c'est ce qu'on aurait à faire si on le faisait en tant que rite les uns avec les autres, probablement. Par contre, ce que Jésus apprend tout au long de son ministère, et ce que les épîtres ensuite enseignent, c'est qu'il y a quelque chose qui est très dur, c'est de se servir les uns les autres humblement, et de s'aimer les uns les autres en regardant les autres supérieurs à nous-mêmes. Et je ne peux pas m'empêcher de comprendre ce texte comme visant ce service et cette vision des autres beaucoup plus large que juste un simple rite. D'ailleurs, le rite n'aurait aucun sens dans notre culture. À l'époque, le lavement des pieds était quelque chose qui existait au-delà de ce geste que Jésus avait fait. Chez nous, par les podologues peut-être, ou les personnels de soins, ce n'est pas quelque chose qui se pratique vraiment. Alors on ne comprendrait même plus, si on transformait ça juste à un rite à faire en église, on ne comprendrait même plus ce que Jésus avait voulu enseigner à travers ça. Donc on masquerait complètement ce que Jésus voulait. Alors, malgré tout, Jésus appuie assez fort sur la mise en pratique à ce moment-là. Je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez de même, et puis au verset 17, vous êtes heureux si vous le mettez en pratique. C'est quand même un appel fort de Jésus, et qui nous interroge, nous, est-ce que notre vie est caractérisée par un zèle pour servir les autres? Ou alors est-ce que notre vie est caractérisée par un zèle pour que les autres nous servent? Alors, moi, je sais quelle réponse je donnerais naturellement, oui. Si je m'écoutais, ma vie serait caractérisée par un zèle pour que les autres me servent. Et j'ai besoin de l'intervention et de l'œuvre de Dieu pour justement retourner ces sentiments. Et au-delà des sentiments, c'est cette orientation du cœur. Je vais conclure avec ce simple geste qui ouvre le récit de la Passion dans l'évangile de Jean. Jésus donne un enseignement d'ensemble sur la vie chrétienne. Comment est-ce qu'on entre dans la vie chrétienne? Pas par des rites qu'on pratique comme s'ils étaient des buts en eux-mêmes, mais parce qu'on est attaché à Dieu par la purification de la croix. Comment est-ce qu'on parcourt la vie chrétienne? En continuant à vivre comme quelqu'un qui se repent continuellement. Quelqu'un qui vit de grâce au jour le jour. Et dans nos relations avec les autres, comment est-ce qu'on vit la vie chrétienne? On la vit quand on est au service des autres. Des choses simples, basiques de la vie chrétienne. Pourtant, parfois, qu'est-ce qu'elles sont dures à mettre en pratique et à vivre. Et Jésus a voulu donner ça comme enseignement, presque comme ultime enseignement à ses disciples, avant de les quitter pour aller à la croix. Alors nous savons que ce soir-là, Jésus a dit bien d'autres choses mais à ses disciples, et ça tournait tellement autour de ça. Quand il leur a donné la scène, ça tournait autour de la nécessité de la purification de la croix. Quand il leur a dit à maintes et maintes reprises, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, qu'est-ce que c'est d'autre que de servir les autres et de les regarder comme plus importants que nous-mêmes? Ce sont des choses basiques, des choses simples à comprendre, mais combien on a besoin de l'Esprit de Dieu dans notre cœur pour qu'il les produise et qu'elles s'enracinent en nous, qu'elles chassent le reste et qu'elles produisent du fruit. Et je vous invite juste à prier pour que Dieu opère cette œuvre en nous, jour après jour.